France Info.
France Info.
Bonne soirée à l'écoute de France Info. La petite histoire du jour nous amènera en Indonésie, plus précisément dans la ville de Bandung, au sud-est de Jakarta. C'est là que s'est ouvert il y a quelques semaines un café d'inspiration nazi. Au Pakistan, ce sont plus de 500 000 personnes qui ont dû fuir le Waziristan du Nord, une région bastion des talibans pourchassés par l'armée pakistanaise. La plupart se sont retrouvés dans la ville proche de Banu, où il manque de tout. Direction d'abord l'Algérie. C'était l'une des promesses du camp Bouteflika. En Algérie, le président réélu en avril pour un quatrième mandat veut réviser la constitution. Et c'est aujourd'hui le dernier jour des consultations politiques sur le sujet. En un mois, une centaine d'associations, d'hommes politiques et de partis ont fait des propositions d'amendements. Mais ce processus fait polémique. De nombreux partis ont refusé de participer. À Alger, Leïla Berhatou.
Il n'avait pas participé à l'élection présidentielle. Le principal parti islamiste du pays, le MSP, a également refusé de participer aux discussions sur la nouvelle constitution. Naman Laouar, député du parti, estime que ces discussions sont inutiles car elles ont déjà eu lieu en 2011 sans résultat.
On a fait ces consultations en 2011. On a donné notre avis. Je ne peux pas revenir refaire le même travail et le même discours. Non, ça sert à rien du tout.
Les proches du président Bouteflika affirment que ce processus est bénéfique pour le pays car il est démocratique. Mais le député n'en croit pas un mot.
Si les élections ne sont pas libres, ne sont pas transparentes, de quelle démocratie vous parlez ?
Limiter à nouveau le nombre de mandats présidentiels à deux, c'est l'une des promesses d'Abdelaziz Bouteflika qui promet également de donner plus de pouvoir à l'opposition. Des élus dénoncent des mesures de bricolage. Lakhdar Ben Khelaf, député islamiste.
On veut que la constitution doit être révisée en sa globalité et non pas des révisions partielles pour régler des problèmes conjoncturels.
Mais la polémique autour de cette nouvelle constitution a surtout pris de l'ampleur lorsque l'ancien Premier ministre a reçu les leaders du FIS pour recueillir leur avis. Ce sont ces hommes qui avaient appelé à la lutte armée contre l'État et contre les civils pendant la décennie noire. À Alger, Leïla Berhatou, RFI pour France Info.
Au Pakistan, à la suite de la spectaculaire attaque de l'aéroport de Karachi au début du mois, l'armée a lancé une vaste offensive anti-talibane dans les zones tribales et plus précisément dans leur bastion du Waziristan du Nord à la frontière afghane. Il y a d'abord eu 2 semaines de bombardements, puis le déploiement de quelques 25 militaires pakistanais. Conséquence de ce conflit, plus de 500 000 civils ont dû fuir la zone. Une majorité d'entre eux a pris la direction de la ville de Banu, où ils subissent chaleur intense, pénurie de nourriture et de médicaments. Le reportage de notre correspondant Joël Brenner.
La nuit est tombée depuis plusieurs heures sur Banu. Devant le stade où les autorités distribuent de la nourriture, ils sont encore des dizaines de déplacés entre deux rangées de barbelés à attendre sa réouverture le lendemain matin. Mouiboula, 35 ans, a dû fuir Mirali dans le Waziristan du Nord en raison des bombardements aériens de l'armée pakistanaise. En tête de cette file nocturne, il vient chercher à manger pour les 10 membres de sa famille.
Il y a beaucoup trop de monde qui fait la queue ici pendant la journée. C'est tellement le chaos qu'on se fait taper dessus par les militaires. Je n'ai même pas réussi à obtenir de nourriture et je suis obligé de passer la nuit ici.
La majorité des centaines de milliers de déplacés qui ont rallié Banu et ses environs ont trouvé refuge chez des proches ou dans des écoles. En raison de l'afflux des déplacés, le prix des logements à la location a lui été multiplié par 3. Un coût bien trop élevé pour les plus démunis, condamnés à vivre à Bakarel, dans un camp de fortune mis en place par les autorités, quelques kilomètres à l'ouest de Banu. Un camp installé au milieu de nulle part, sur un sol rocailleux où s'épanouissent les scorpions. Le soleil frappe sans répit sur cette fournaise qui dépasse les 45 degrés.
Si quelqu'un pense qu'on peut être heureux ici, qu'il vienne voir nos tentes pour prendre conscience des conditions misérables dans lesquelles on vit. On n'a rien pour rafraîchir l'eau, on n'a pas de ventilateur et presque rien pour nous soigner.
Au nom du conflit entre l'armée et les talibans pakistanais, l'immense majorité des habitants du Waziristan du Nord ont été jetés sur les routes. Un exode insuffisamment anticipé qui fait poindre le spectre d'une crise humanitaire majeure si l'opération devait se prolonger. Banu, Joël Brenner pour France Info.
Un café nazi en Indonésie. Lors de son ouverture il y a un an, il avait suscité l'indignation de la communauté internationale à tel point qu'il avait dû fermer ses portes pour incitation à la haine raciale. Ce café d'inspiration nazie est situé en Indonésie, dans la ville de Bandung, au sud-est de Jakarta. Il y a quelques semaines, il a rouvert ses portes, décorées de croix gammées et pourvues d'une fausse salle d'interrogatoire. Le Soldaten Café ne rend pas hommage aux nazis, dit son propriétaire. Il est juste dédié à la Seconde Guerre mondiale. Cléa Bodhurst s'y est rendue. Reportage.
En entrant dans le Soldaten Café, le regard se pose en premier sur deux aigles massifs posés sur des croix gammées, puis sur les citations d'Adolf Hitler et de Staline au mur. Le propriétaire des lieux, Henri Mouliana, avait dû fermer l'année dernière après avoir reçu des menaces de mort. On l'accusait notamment d'inciter à la haine raciale. Il se défend aujourd'hui en expliquant que le thème du café est en fait l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale.
Mon but n'est pas de montrer les nazis, ce café n'est pas un café nazi, c'est un café militaire. Soldaten, c'est soldat, pas nazi. Ce qu'on dévoile ici, ce sont des objets militaires, pas des objets nazis. Je ne connais pas l'histoire, je suis un collectionneur. Mon but est purement économique.
Il explique ne pas avoir eu conscience à l'époque de l'histoire derrière ces objets, s'attachant juste à leur valeur. Mais malgré une fermeture forcée et des appels de la communauté internationale, il a tout de même décidé de promouvoir sa collection. Kinyo, un client indonésien venu voir les lieux pour la première fois, explique cependant ressentir un certain malaise en entrant dans ce café.
En tant qu'Indonésien, c'est tout de même bizarre de venir dans un café dont le thème est censé être la guerre en général. Je vois les nazis, il y a des croix gammées, Hitler et ses logos avec les aigles. Ça fait peur ici.
L'Indonésie ne reconnaît pas officiellement la religion juive. Un juif pratiquant dans l'archipel ne pourra l'inscrire sur sa carte d'identité. Il devra probablement signaler qu'il est musulman pour faciliter les choses. Comme l'explique Petrus Lakonawa, le fondateur du Centre de recherches et études du judaïsme à Jakarta, les juifs sont encore perçus au sein de l'archipel comme étant profondément anti-musulmans. Et un lieu comme le Soldaten Café ne fait qu'attiser son inquiétude.
Exposer Hitler ou les nazis en général comme des héros, cela implique qu'il faut suivre leur exemple. Où cela peut-il mener notre génération et notre pays? Tout cela me préoccupe vraiment.
Et quelques jours à peine après la réouverture du café, nouveau scandale. Une vidéo de soutien à l'un des candidats à la présidentielle du 9 juillet, Prabowo Subianto, dévoile une star indonésienne vêtue d'un costume militaire nazi. Le candidat a remercié les chanteurs sur ses comptes Twitter et Facebook, clamant que cela stimulait la campagne. La communauté internationale a quant à elle été claire, elle condamne cette ignorance et cette faute de goût. Cléa Broderst, Jakarta, RFI pour France Info.